Lizzie présente Prisonnière de Daniel Steele. Lue par Max Joseph. À Beatty, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Max et Zara, mes chers et merveilleux enfants, que vos choix soient les bons, et dans le cas contraire, puissiez-vous avoir la sagesse et le courage de les modifier. Puissiez-vous être heureux et serein, entouré de bonnes personnes qui vous aiment et vous traitent bien. Que vos trajectoires soient aisées, vos vies emplies de grâce, et surtout, rappelez-vous toujours, toujours, à quel point je vous aime. Maman, Daniel Steele. Chapitre 1. Au crépuscule d'une chaude journée de juin, le Princess Marina, un gigantesque yacht, était à l'ancre à la pointe du Cap d'Antibes, non loin du mythique hôtel du Cap. Long de 150 mètres, il trônait à la vue de tous, tandis que les nombreux matelots d'un équipage de 75 personnes arrosaient et astiquaient ses ponts. Il suffisait aux observateurs de remarquer à quel point les hommes le semblaient petits, vus de loin, pour prendre la mesure de l'impressionnante taille du bateau, dont la coque était illuminée de l'intérieur. Les habitués de la Riviera connaissaient tous le nom de ce fabuleux yacht et l'identité de son propriétaire. D'autres bâtiments, également trop massifs pour être amarrés au port, étaient ancrés à proximité. Il n'était en effet pas aisé de manœuvrer ces géants, quelle que soit l'importance de l'équipage ou son habileté. Le propriétaire du Princess Marina, Vladimir Stanislas, possédait trois autres yachts de taille comparable ancrés en divers endroits du globe, ainsi qu'un magnifique voilier de 100 mètres, acheté à un Américain, mais rarement utilisé. Cependant, le Princess Marina, baptisé ainsi en l'honneur de sa mère, décédée alors qu'il n'avait que 14 ans, était son bateau préféré, une exquise île flottante au luxe inouï, dont la construction lui avait coûté une fortune. Quoique Vladimir Stanislas possédât aussi à Saint-Jean-Cap-Ferrat l'une des plus légendaires villas de la Côte d'Azur, rachetée à une célèbre vedette de cinéma, il ne se sentait jamais autant en sécurité qu'en mer. Les cambriolages et attaques à main armée des villas de luxe étaient monnaie courante dans le sud de la France. Au large, entouré d'un équipage dont les membres étaient formés à la protection rapprochée de haute sécurité et aux pratiques antiterroristes, il était parfaitement serein. Sans compter qu'il disposait de tout un arsenal à bord et d'un système de missiles dernier cri. De plus, il avait la possibilité de se déplacer rapidement à n'importe quel moment. Fort des excellentes relations qu'il entretenait depuis son adolescence avec les hommes clés de son pays, Vladimir Stanislas était parvenu, voilà une vingtaine d'années, à la tête du monopole de l'industrie sidérurgique russe. Il avait pour amis les membres les plus éminents du gouvernement, jusqu'au président lui-même, et fréquentait nombre de chefs d'État. Il avait également investi dans le pétrole et dans d'autres industries. Bref, il était reconnu comme l'un des hommes les plus riches de Russie et même du monde. On estimait sa fortune à 40 ou 50 milliards de dollars, et ce, sur la seule base de ses investissements connus. Vladimir n'avait que 49 ans. Ce fabuleux yacht qui étincelait dans le crépuscule comme un joyau n'était donc qu'un symbole parmi d'autres de ses puissantes relations et de son habileté en affaires. L'homme était à la fois admiré et craint. Ce qu'il avait accompli au cours des 19 dernières années lui avait valu la considération et l'envie des hommes d'affaires du monde entier. Il contrôlait aujourd'hui la majeure partie des nouvelles richesses de la Russie. Ceux qui le connaissaient bien et qui avaient conclu des contrats avec lui étaient conscients que l'histoire ne s'arrêterait pas là. L'homme avait la réputation d'être impitoyable et de ne jamais rien pardonner à ses ennemis. Il avait aussi la réputation de toujours obtenir ce qu'il voulait. Néanmoins, il avait d'autres facettes plus douces. Sa récente passion pour l'art et la littérature, son amour de la beauté et sa fidélité envers ses compatriotes. Ses amis, de puissants industriels comme lui, ainsi que ses maîtresses, étaient tous russes. Partout, que ce soit dans son somptueux hôtel particulier à Londres, dans sa villa du sud de la France ou dans son appartement spectaculaire à Moscou, il s'entourait de gens originaires de son pays natal. Étrangement, malgré sa richesse et son influence, Vladimir Stanislas préférait passer inaperçu dans la foule. Vêtu sans ostentation, il allait et venait discrètement. Ce n'était que lorsque vous le regardiez dans les yeux que vous réalisiez qui se trouvait en face de vous. Un homme au pouvoir infini. Un homme dont la ligne ferme de la mâchoire et la prestance indiquaient qu'il n'accepterait aucun refus, aucune contradiction. Vladimir plaisait aux femmes depuis son plus jeune âge. Ses pommettes hautes et ses traits mongols finement ciselés, héritage de ses ancêtres, donnaient une touche d'exotisme à son charme sauvage. Grand, musclé, blond aux yeux bleus, il n'était pas beau au sens classique du terme, mais son physique attirait inexorablement la gent féminine. Et dans les rares moments où il s'autorisait à se laisser aller et à sourire, on soupçonnait chez lui une certaine chaleur. La sentimentalité typique des Russes affleurait. Cependant, jamais Vladimir ne se plaçait en position de vulnérabilité vis-à-vis des femmes. Il tenait à être le seul maître de son destin, à garder toute sa liberté. Rien dans sa vie n'arrivait par hasard ou par accident. Chaque événement était soigneusement planifié, organisé. Il avait eu de nombreuses maîtresses depuis son accession au sommet de la hiérarchie sociale. Mais contrairement à ses pairs et à ses homologues, il ne voulait pas d'enfants d'elles. Il clarifiait ce point dès le début de la relation. En réalité, il ne tolérait aucune entrave. Rien qui puisse le rendre vulnérable. Pour ces raisons, il n'avait pas de famille. La plupart de ses connaissances avaient eu des enfants avec leur maîtresse, généralement sur l'insistance de celle-ci, désireuse d'assurer leur avenir financier. Vladimir refusait ce genre d'obligation. Les enfants ne faisaient pas partie de ses projets. C'était une décision qu'il avait prise sans regret, bien des années auparavant. Il était très généreux avec ses maîtresses tant que durait leur liaison, mais cela s'arrêtait là. Il ne leur faisait aucune promesse d'avenir. Et d'ailleurs, aucune de ses conquêtes n'aurait insisté sur le sujet. Car Vladimir était comme un serpent enroulé, prêt à frapper à tout moment, potentiellement impitoyable si on le mettait en colère. Il ne faisait quasiment jamais preuve de cruauté, mais sa réputation le précédait. Il pouvait se révéler dangereux s'il était trahi ou provoqué. Rares étaient ceux qui avaient tenté de le défier, et parmi eux, aucune femme. Natacha, sa compagne actuelle, savait parfaitement que le refus d'enfant était une clause non négociable, de même que celui du mariage. Vladimir imposait ses conditions dès le départ et ne revenait plus sur le sujet, qui ne devait plus être abordé une seule fois, précisait-il. Il s'était vite débarrassé de celle qui avait tenté de le convaincre ou de le circonvenir. Au besoin, il leur avait versé une somme rondelette, néanmoins dérisoire par rapport à ce qu'un contrat de mariage aurait pu leur rapporter. Vladimir Stanislas ne faisait jamais de compromis, sauf quand cela lui était bénéfique en affaires. Dans tous les domaines, le magnat russe écoutait sa tête et non son cœur, et c'était ce choix qui l'avait mené à la position qu'il occupait aujourd'hui. Enfin, il ne faisait confiance à personne, ayant appris très jeune à ne croire qu'en lui-même. Depuis qu'il s'était élevé au sommet, Vladimir avait gagné en puissance et accumulé des richesses à un rythme fulgurant. Il vivait quelque part dans la stratosphère avec un pouvoir quasi illimité et une fortune dont personne ne soupçonnait l'importance. Il jouissait comme un enfant des fruits de sa réussite et ne regardait pas à la dépense quand il s'agissait d'acheter des villas, des bateaux ou des voitures de sport, sans compter un avion et deux hélicoptères qu'il utilisait fréquemment pour se déplacer autour du monde. Il y avait aussi sa collection d'œuvres d'art, véritable passion. S'entourer de beauté lui était vital et il aimait posséder le meilleur en tout. Il consacrait peu de temps à l'oisiveté, mais n'hésitait pas à s'amuser quand il le pouvait. Bien entendu, les affaires occupaient la première place dans son esprit et il réfléchissait toujours au prochain contrat. Néanmoins, à l'occasion, il prenait le temps de se distraire avec ses rares amis, principalement des hommes d'influence avec lesquels il entretenait également des relations professionnelles ou des politiciens qui lui étaient redevables.